Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors, on est bien content de vous retrouver cette semaine pour discuter d'astronomie ensemble. On est trois dans le studio, Pierrick, Axel et Fred qui vous parlent.
Bonjour à tous.
Et bonjour.
Alors, le 86e épisode de l'émission. Je vais vous donner le sommaire d'abord. On va faire le ciel ce soir, comme d'habitude, pour voir un peu les constellations qui sont observables en ce moment. Ensuite, on aura quelques actus du monde de l'astronomie. On va aussi vous donner quelques annonces d'événements qu'on commence à vous concocter pour cet été. Et ensuite, après la pause musicale, ce sera la rubrique qui tombe à pic avec les météorites, première partie qu'Axel nous a préparée.
C'est ça.
Alors, on vous rappelle que vous pouvez toujours écouter les émissions passées sur le podcast www.rdwa.fr. Dans les émissions thématiques, vous trouvez l'étoile polaire. Là, vous avez toutes les émissions depuis le début, avec les photos de Axel ou de Rémi qui illustrent ce podcast. De belles photos du ciel, nébuleuses, galaxies et autres objets qu'on peut observer au télescope. Et puis, on vous rappelle aussi le mail de l'émission astro-rdwa@protonmail.com. Si vous avez envie de nous faire des commentaires ou si vous avez envie de venir participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà pour cette petite introduction. Alors, on va commencer, comme d'habitude, avec le ciel ce soir. Donc là, à l'heure où on enregistre, en ce moment, on traverse une phase assez nuageuse et pluvieuse. Donc, ça fait quand même quelques jours que, personnellement, je n'ai pas réussi à trop bien observer. Mais il y a quand même des petits trous avec des petits passages clairs. Et là, on voit que le ciel, il a quand même bien tourné par rapport à il y a un mois. Là, si on regarde un peu les premiers astres en fait qui s'illuminent, on a quand même deux trois là bien brillants qui apparaissent dès le coucher du soleil. Ça va être Sirius qui est plein sud, qui est l'étoile la plus brillante du ciel dans le grand chien. Ça va être aussi Jupiter qui est on va dire un zénith ouest. Ouais. Qui est encore bien bien brillante. Et puis on a quand même Capella hein, juste après aussi qui dans le cocher là qui brille assez haut et fort dans le ciel. On a également Mars qui au moment du coucher du soleil est vraiment au zénith pour le coup.
À côté de Castor et Pollux.
Ouais, dans le cocher. Dans le Gémeaux. Merci, les Gémeaux. Donc voilà un peu c'est les premiers astres qui apparaissent.
Et puis Arcturus qui se lève.
Arcturus près, ouais. Qui se lève.
Ah, l'est, du
tout
coup.
Tout à fait, plein est, ouais, assez basse. Ouais. Tout à fait. Et puis, ensuite, les constellations vont apparaître. Donc, très vite, Orion. Ouais. Donc, Orion qui est, on va dire, au sud-ouest. Elle a déjà passé le méridien, là, largement, en début de nuit. Ouais. Voilà, c'est cette belle constellation en forme, tu disais, de sablier un petit peu. Et avec les trois étoiles de la ceinture d'Orion qui, alignées, donnent la direction de Sirius, justement, cette étoile très brillante dont je vous parlais tout à l'heure. Au-dessus de Sirius, on va trouver Procyon. Et puis on trouve aussi très vite la Grande Ourse. Hein, la Grande Ourse qui est en mode point d'interrogation dès le début de la nuit. Et en dessous, en fait, on a le Lion. Donc le Lion, il va occuper une grande partie est du ciel en début de nuit. Une grande constellation.
Ouais, sud-est même un peu. Ouais.
Ouais. Il est assez haut au départ. Vite. On a la Vierge qui est derrière. Le Lion. Et puis, entre le Lion et les Gémeaux, on a cherché l'autre jour, c'est le Cancer. Oui. Le Cancer avec vous en parliez dans l'émission précédente, là, c'est cette tache floue qui est l'amas de la crèche ou l'amas du nid d'abeille, qui est un gros amas ouvert, en fait, très beau. Et effectivement, on voit à l'œil nu comme une tache floue. Et dans une zone où il y a assez peu d'étoiles, puisque le Cancer, c'est vraiment des étoiles faibles. Très faibles. Donc on est entre le Lion et les Gémeaux. On trouve cette constellation-là. Voilà déjà pour ce début de ciel. Donc comme je l'ai dit, on a Orion. Au-dessus d'Orion, un peu plus à l'ouest, on a le Cocher avec Capella, et puis on arrive sur la zone circumpolaire avec Cassiopée, Persée, et puis la Grande Ourse, la Petite Ourse et le Dragon. Voilà pour cette partie du ciel. Donc effectivement, quand ensuite la nuit va s'avancer, eh bien derrière le lion va arriver la Vierge. Comme tu le dis, il y a effectivement aussi avec la Vierge, on a
l'étoile Spica.
On a Spica, oui. Mais Arcturus, c'est ce que tu disais, donc avec le Bouvier. Et puis le ciel d'été qui arrive avec la couronne, avec Hercule, et puis avec le triangle d'été qui se lève ensuite derrière.
Oui, assez tard quand même. Pour voir le triangle en entier, c'est...
Deuxième partie
c'est,
de nuit.
C'est 2h du matin.
Ah voilà. À partir de 2h, ouais.
Mais du coup, on voit, c'est le moment de l'année où on voit, comme on l'a dit la dernière fois, on peut voir tous les objets du ciel, on peut voir tout le ciel, que ce soit autant celui d'été que d'hiver. On est entre les deux. Et du coup, on voit en tout début de nuit la Voie lactée se coucher et à 4-5 heures du matin, on la voit se relever de l'autre côté. J'ai pu voir ça dimanche soir. Avec le scorpion qui se levait et la Voie lactée.
Je voulais en venir là aussi, effectivement, fin de nuit, le scorpion qui se lève, qui est quand même beau à observer.
Pour les tricouches tard comme moi, ou pour les lève-tôt.
au choix.
C'est ça, plein sud, enfin sud-est. Ouais, scorpion, la Voie lactée, et un tout petit bout du Sagittaire, et après le soleil arrive.
Voilà pour ce ciel. Vous avez fait des petites observations particulières
Non, j'avoue que ces derniers temps, non. J'ai vu qu'il y avait un beau ciel il y a 2-3 jours, là.
Ouais. C'est ça, ouais. Lundi soir.
Ouais.
C'est ça.
Lundi soir, il y avait un très beau ciel, dimanche aussi.
Et il y avait la lune, en fait, qui se levait. Ouais. C'était assez beau, en fait.
Oui, j'ai vu un beau coucher de soleil qui était vraiment orange à l'horizon, avec ce dégradé du orange au noir.
Ouais.
Et juste à la limite, entre l'orange et le noir, le tout fin croissant, croissant de la lune. Qui brillait là, c'était joli. Et le lendemain, elle était un peu plus haute et du coup, elle était orange. Mmh. Ça faisait un petit U orange, prêt à se coucher derrière le soleil.
C'est vraiment chouette, ces fins croissants là, en début de cycle. Moi, j'aime beaucoup.
Je l'ai photographié du coup.
Ouais.
Et elle est passée tout près des Pléiades aussi. On pouvait voir dans le même champ d'oculaire, aux jumelles, l'amas des Pléiades et la lune, et le croissant lunaire. Et sinon, j'étais frappé par en voyant le corbeau, la constellation du corbeau qui a des étoiles pas si brillantes, qui n'a pas du tout une forme de corbeau, qui fait un petit trapèze.
Un mauvais carré.
Ouais, c'est ça. C'est bien, un mauvais carré. mais qui est assez isolé quand même. Au sud, il n'y avait que lui. Et je trouvais ça sympa de le voir.
À quelle heure ça ?
C'est vers minuit. Il est sous la Vierge.
Ok.
Et voilà, ça m'a rappelé l'année dernière, à peu près à la même époque, où j'avais photographié la galaxie du Sombrero, qui se trouve dans cette constellation.
D'accord.
Une image que vous pouvez retrouver, je pense qu'elle illustre un des podcasts sur le site rdivois.fr.
Oui. Voilà. Ok. Et bien voilà pour ce tour du ciel. On vous encourage à regarder un peu aussi, à votre tour, à repérer un peu ces constellations. Et par rapport à ce que tu disais là, Axel, qu'en ce moment on peut voir tout le ciel, c'est parce que voilà, on insistait qu'on est en zone d'équinoxe en fait.
Oui, voilà, on n'est pas loin.
Donc là aussi, c'est une position géométrique en fait entre la Terre et le Soleil par rapport à l'orbite de la Terre, où en fait vous avez vraiment la moitié de la Terre qui est dans la nuit, alors qu'exactement, l'autre moitié est éclairé, et ces deux moitiés en fait sont vraiment au niveau des pôles. La séparation se fait au niveau des pôles et non pas ailleurs.
Perpendiculaire à l'équateur.
C'est ça, perpendiculaire à l'équateur et surtout au plan de la trajectoire en fait.
Mmh. Oui.
Et du coup, on peut voir effectivement tout le ciel. C'est pour ça que c'est le moment des marathons messiers, etc.
C'est ça.
Voilà. Ok, on va passer donc à la suite. Cette semaine, on a pas mal d'actu, en particulier Pierrick, je crois, là, tu voulais nous raconter des choses un peu sur le monde trépidant de l'astronomie.
Ouais,
le JT de Pierrick.
Il y a beaucoup de choses qui se passent, ouais. Enfin, comme toujours, on peut dire, mais en tout cas, cette fois, ça m'a plus marqué que d'habitude. Il y a une première actu qui vient de la Chine, qui a envie de créer une espèce d'arche himalayenne géante. Donc là, c'est un peu, on sort un peu de l'astro, mais c'est quand même un lien, je trouve. Face à une menace de changement climatique ou de dérèglement ou de choses apocalyptiques qui pourraient arriver, La Chine décide de faire un espèce de bastion agricole sur ce haut plateau qu'est l'Himalaya pour avoir une sécurité alimentaire. Donc ça m'a un peu interloqué quand même cette nouvelle que des chercheurs chinois prennent le temps et l'énergie et l'argent pour essayer de faire ça, comme si notre belle planète était menacée à ce point. Et voilà, et ça me questionne sur en fait l'arche, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'Himalaya ou finalement bah, c'est toute notre planète, parce que on est tous concernés par tout ça. Donc voilà, je voulais un peu remettre en perspective cette nouvelle et dire que notre arche, c'est la Terre. Et c'est un beau vaisseau spatial et merci de prendre soin du matériel. Voilà, alors, après, on va rester sur la Chine, qui fait beaucoup d'avancées, et notamment dans ce domaine, elle pense toujours aller sur Mars d'ici quelques décennies. Et le gros problème pour aller sur Mars, c'est d'avoir de l'oxygène en conséquence. Parce qu'il faut 6 mois pour y aller, plus sur place, plus 6 mois de retour. Donc ça fait beaucoup de trajets, beaucoup d'oxygène à consommer. Et tout ce qu'on ne prend pas sur Terre, c'est du poids d'économiser. Donc pour gagner sur ce terrain-là, ils ont trouvé un moyen de transformer le CO2 en oxygène. Donc c'est le tout début de cette technologie, mais apparemment ça fonctionne. Et comme Mars est composé à 95% de CO2 dans l'atmosphère, même si c'est assez ténu, ça serait un premier pas pour avoir de l'oxygène sur place et le fabriquer sur place. Donc c'est quand même un grand pas, à voir si ça se concrétise ou pas, si ça demande beaucoup d'énergie pour produire ça.
C'est surtout ça la question, parce que les techniques, voilà. On les a, c'est pas hyper compliqué. Par contre, ça demande souvent de l'électricité, faire des électrolyses de trucs, ça demande de l'énergie.
Ça demande pas tant d'énergie, cette technique-là. Donc, voilà. Mais toujours pareil, une fois que t'es pas chez toi, c'est plus compliqué. Donc,
il vaut mieux rester chez soi, comme ça les vaches sont bien gardées. Voilà.
En tout cas, voilà. En plus, l'autre avantage de fabriquer de l'oxygène, ça serait pour les carburants des fusées.
Oui.
Et ça, c'est pas des moindres pour un retour, par exemple, ou pour ce genre de choses. Voilà pour la Chine. Ensuite, on va repartir en Europe, où il y a eu une première. Ah oui. Ça faisait assez longtemps. Je ne sais pas combien de temps. Moi, dans ma tête, c'est les V2, les premières fusées européennes, mais les fusées allemandes, qui ont décollé depuis l'Europe.
Et les dernières, c'est...
Et donc là, la dernière, c'est Spectrum. Mmh. C'est là, c'est cette dernière semaine. Là.
C'est en Norvège, c'est ça ?
C'est en Norvège, à Andøya, ouais. Et donc, ils ont essayé de lancer un micro-lanceur. Mais un micro-lanceur qui est déjà quand même pas mal. Il fait 2 étages, 21 mètres de haut. Il a 10 moteurs. Qui sont propulsés à l'oxygène et au propane. Donc ça, c'est une nouveauté aussi.
Ouais.
Et c'est Isar Aerospace, c'est une entreprise allemande qui fait ça, un peu sur le modèle de SpaceX, j'imagine. En tout cas, c'est une entreprise privée. Bon, alors la fusée, à bout de 30 secondes...
Elle a fait demi-tour.
Ouais, c'est ça. Elle est retombée sur Terre dans une explosion fracassante. Les images sont assez ahurissantes. C'est marrant, donc elle commence à monter, elle commence à osciller à droite. Et là, on sent qu'ils essayent de récupérer le mouvement. Du coup, elle part à gauche, mais trop. Du coup, elle repart à droite, mais complètement à fond. Et là, ils ont tout coupé et elle est retombée sur Terre. Et quand tu vois les images, je crois qu'il y a des images d'une webcam. Il y a un mini hameau, il y a 3-4 baraques. Et depuis leur maison, on voit cette fusée qui monte et qui se crache en descendant. Ouais.
Tu sais à combien elle est montée
La hauteur, non. Je ne sais pas.
J'ai pas retenu.
Non. En tout cas, les habitations, je me dis, c'est quand même quelque chose d'avoir ça en face de chez soi.
Mais oui, ils ont un petit peu parlé de ça parce que c'est aussi dans la droite ligne de cette histoire d'Ariane 6, à Kourou, tout ça. Enfin, c'est de retrouver une capacité de lancement européenne qu'on n'avait plus, en fait. Donc l'Agence spatiale européenne est à fond là-dessus. Donc là, effectivement, c'est plus petit, les projets et tout, mais c'est quand même, comme tu disais, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas lancé de fusée depuis le sol européen. Et je crois que c'était un truc qui leur tient quand même, qui leur tient à cœur.
Depuis le continent, oui.
Parce que, la Guyane, c'est la France, administrativement, mais c'est quand même pas à côté.
Oui.
tout à fait. Ouais, là, c'est
les fusées françaises de l'époque,
les premières.
Les Astérix, les Véroniques, tout ça. Là, c'était
pas en Algérie, ça.
Je crois que c'était en Algérie.
Ouais, ouais. C'est ça.
Là où il y avait aussi des tests nucléaires, tout ça.
C'est
pas ça. Mal de bazar.
Oui,
dans
oui, c'est vrai. Ouais, les pierres précieuses aussi, là, les fusées cristal, diamant, tout ça. C'était là-bas aussi, effectivement.
Il y a un autre site de lancement en Écosse aussi. Pour des fusées européennes, mais pareil, pour l'instant, c'est les premières phases un peu balbutiantes. Alors, c'est normal hein, dans les premières phases de perdre des fusées, hein. Ça c'est très très fréquent. Je crois que c'est plus de la moitié qui sont crachées. Après, il faut avoir la faculté d'adaptation et de continuer ça, quoi. C'est ça le plus gros challenge d'en refaire une, de recommencer, et ainsi de suite pour y arriver.
De bien apprendre des erreurs,
ouais c'est ça. Ouais. À voir jusqu'où ça va. Un peu comme SpaceX au début. Je crois que les 3 ou 4 premières ont explosé jusqu'à... C'était la dernière chance. Si ça ne marchait pas, le projet était fini. Et ça a marché.
Oui, non, mais ça, c'est normal qu'il y ait de la perte.
Bah, oui, oui.
Au départ, dans les lancements de fusées, ça, c'est comme ça. Mm-hmm. Donc là, il n'y a rien de dramatique. Hein. C'était leur premier test. Ils font, ça rate. Bon, oui. Je pense qu'ils s'y attendaient peut-être aussi un peu. Enfin, c'est pas... C'est ça.
Oui, alors pour eux, c'est une grande réussite. C'est marrant.
Oui, c'est une réussite bah, parce qu'ils sont arrivés à faire un lancement, même s'il a foiré. Ils ont quand, ils ont quand même réussi à faire un lancement.
Un lancement, à rattraper un peu. Non, bon, ça n'a pas marché. Et surtout, que les moteurs s'arrêtent et qu'elles se autodétruisent sans rien casser en bas.
Ouais,
oui, ils n'ont pas détruit leur pas de
tir. Ils n'ont pas détruit le pas de tir. Il n'y a pas eu de maison, elle est atterrée dans la mer. Voilà.
Donc à suivre.
Voilà. Alors si je continue, là par contre on part aux USA, on va voir SpaceX qui fait une mission habitée, avec des capsules, avec des gens dedans, hein, qui s'appelle Fram 2. Donc Fram, c'est en hommage au bateau de Amundsen. Donc Amundsen, c'est l'explorateur des pôles nord et sud, je crois. C'est le nom de son bateau, donc c'était l'explorateur. Ils ont décidé d'appeler la fusée, la mission comme ça, parce que ça fait super longtemps que des astronautes n'ont pas survolé les pôles, le nord et sud, d'avoir une orbite autour des pôles n'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc c'est encore une mission avec des amateurs, mais je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas c'est pas des pilotes de chasse ou c'est pas des militaires. C'est, si je peux vous faire le commandant.
Le casting.
Le casting de la mission. Le commandant, c'est Chun Yang. Donc, c'est lui qui finance la mission. C'est un entrepreneur en crypto-monnaie qui a apparemment bien réussi. Qui emmène avec lui une Norvégienne, une réalisatrice de films. OK. Un Australien explorateur guide des pôles. Et une chercheuse en robotique allemande, qui d'ailleurs, au passage, est la première femme allemande à aller dans l'espace. Voilà. Donc, un casting. Donc, ils ont quand même 8 mois d'entraînement avant. Ils vont faire il reste 5 jours en orbite, du coup, à survoler les pôles, à voir un peu, à les observer. Ils vont faire des missions de. Ils vont faire des expériences de culture de champignons. Et pour la première fois, une radiographie humaine. Donc faire une radio du corps humain, mais en orbite.
Okay. Ça fait un peu pot pourri, genre une petite mission pour se faire plaisir. Ouais, puis genre, je vais emmener ma copine. Je vais emmener ma...
c'est étonnant de voir.
Si vous voulez.
8 mois d'entraînement, tu vois, c'est pas si long. Allez hop, on y va. Voilà, et donc il y avait une mission similaire qui avait eu lieu avec la première sortie extravéhiculaire amateur, entre guillemets.
Oui.
Avec le commandant, c'était Jared Isaacman. Et ce monsieur, maintenant, c'est le boss de la NASA. C'est l'administrateur que Trump a nommé à la NASA. Voilà, pour la petite histoire. Si je continue avec les États-Unis... je voudrais encore parler du retour de Sonny Williams et Butch Wilmore. Donc, on avait parlé la dernière fois, ces astronautes américains qui étaient censés passer une semaine sur la station spatiale pour tester un vaisseau et qui finalement sont restés 300 jours. Parce que le vaisseau de retour était en panne et n'a pas marché. Et pour ne pas leur faire prendre de risques, ils sont restés dans la station spatiale jusqu'à ce qu'il y ait un roulement d'astronautes, voire deux roulements, je crois,
ouais,
pour arriver à les ressortir de là.
Parce que les plannings sont faits des années à l'avance sur qui va dans l'espace, à quel moment.
C'est ça. Ouais. Voilà.
Donc il fallait caler deux personnes en plus dans ce planning serré.
Ouais.
Ouais, que dans un sens en plus. Ouais.
Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, un petit grain de sable ou un gros, pour le coup, ça a des conséquences à long terme. Quoi, parce que déjà pour eux, physiquement, ils n'étaient pas tout à fait prêts à ce genre de choses. Et ils sont revenus assez affaiblis quand on voit les images et même toutes les études qu'ils font montrent qu'ils sont allés loin physiquement, humainement, dans leur déjà mentalement. Parce que te dire que tu vas rester là-haut une semaine et finalement ça dure 300 jours, je pense qu'il y a un moment tu te poses la question de si tu vas rentrer un jour. Et physiquement, eh ben, ils ont les jambes bloquées, ils ont les muscles hyper faibles, ils ont le toucher qui s'est... ça c'est marrant, ils ont le toucher qui... Ils sont moins sensibles au toucher. Parce que comme tout flotte dans l'espace, comme t'es en apesanteur, même tes vêtements, ils flottent.
Ouais,
t'as pas cette sensation de contact. Ouais. Du coup, il faut retrouver ça. Ils ont de l'ostéoporose, le cœur qui bat moins vite parce qu'il y a moins d'efforts à faire dans l'espace... Donc il y a quand même beaucoup de choses qui jouent sur le corps humain, qui sont très affaiblies.
Puis il faut dire que c'est pas, je crois pas qu'ils aient le record du
non
de d'âge, pas de durée mais de d'âge d'astronautes, mais ils sont quand même plus âgés qu'un Thomas Pesquet qui a 40 ans, 43
ans. Oui,
là
ils ont 60 ans.
Ils ont 60 passés. Ouais.
Ouais.
Donc voilà, un âge où on récupère un peu moins vite.
Il y a un commentaire qui me fait rire parce qu'ils disent ouais, t'as vu, ils ont aussi les cheveux blancs, c'est-à-dire qu'ils ont pris un sacré coup de vieux, machin. Puis il y a un commentaire qui dit ouais, c'est normal, elle a juste pas pris de quoi faire une couleur spéciale, du coup, c'est normal. Bref. Ce qui m'amène à la prochaine info, c'est que il y a eu un vaisseau de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale qui a eu un dégât dans un transport terrestre. Donc ils ont fabriqué le vaisseau, ils l'ont transporté pour aller vers la fusée, et là il y a eu un accident, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, le vaisseau a été abîmé. Bah, c'est pareil, toutes ces choses qui sont, comme tu disais Axel, assez millimétrées, il y a un planning sur assez long terme, sur plusieurs années. Bah, dès qu'il y a un truc, il y a un rouage comme ça qui ne marche plus, ça met plein d'autres choses, ça décale plein de choses qui sont compliquées. Par exemple, là, il y a eu deux astronautes en plus pendant les 300 jours, là. Eh ben, ça va poser un problème au niveau de la nourriture. Ils ont consommé plus que prévu. Et si, en plus, ce vaisseau de ravitaillement ne va pas décoller à la date prévue, il va y avoir des moments où ils vont devoir réduire leur alimentation, par exemple. Voilà, c'est pour dire que c'est toujours très compliqué dans l'espace. De ravitailler un vaisseau, c'est compliqué. Il peut y avoir plein de choses qui se passent. Et la seule chose que je soulignerais là-dessus, c'est que quand même, la Station Spatiale Internationale, c'est peut-être l'un des rares endroits où l'entraide internationale se fait encore. Mmh. Au niveau des Russes, des Américains, de l'Europe. Voilà, tout ce petit monde, quand même, fonctionne.
Japonais.
Ouais. Japonais, Indien.
Mmh. Ouais.
La Chine, non, je crois.
Non, ils ont leur station maintenant.
Ils ont leur propre station. Mais,
où ils vont avec des Nord-Coréens aussi.
Ah ouais.
Il n'y a pas l'Arabie Saoudite qui avait un ou deux cosmonautes aussi, non?
Oui,
ils ont des fusées là-bas, mais il me semble qu'ils ont un ou deux cosmonautes.
Ouais. Oui, tout à fait.
Donc pas de panique, hein, tout va bien sur l'ISS, ils ont 4-5 mois de vivre.
Oui, c'est pas critique, mais...
Ouais.
Mais ça impacte.
Voilà.
Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, pardon, j'ai encore une dernière chose à dire. Je vais parler du satellite Euclide. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, Axel et Fred.
On l'a mentionné, par rapport à la matière noire, tout ça.
Oui. Donc son rôle, c'est plus de répertorier les galaxies, de répertorier la matière dans l'univers, pour voir justement où il reste, où est la matière noire, l'énergie sombre. En tout cas, là, il en est à... Ah oui, voilà. Il va collecter jusqu'à 26 milliards de galaxies. Donc ça, c'est vraiment... J'ai trouvé ce chiffre énorme. C'est les prévisions.
Ouais.
C'est les prévisions à la fin de sa mission.
Ouais.
26 milliards c'est de énorme. Galaxies. Mmh. Ça m'a paru hallucinant.
Un quart de ce qu'il y a dans l'univers observable.
Et peut-être, ouais. Voilà, donc ça, son but à lui, c'est de cartographier les galaxies pour voir comment ça s'organise et comment la matière s'agglomère ou pas à des endroits. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Ok, bah merci Pierrick pour toutes ces infos. Il s'en passe. Là, ça avance, le spatial, la science, tout ça, ça bouge. Avant de passer à la pause musicale, je vais vous faire des petites annonces d'événements là, qu'on commence à organiser pour cet été. Alors tout d'abord, vous parlez de On the Moon Again. Alors On the Moon Again, c'est un événement international qui a pour but en fait de promouvoir l'astronomie et donc qui propose à tous les gens qui ont un télescope de le sortir pour faire observer la Lune aux autres ces jours-là. Donc vous avez
sur l'espace public.
Sur l'espace public, voilà. Donc vous avez peut-être eu l'occasion déjà, nous ça fait, ce sera la troisième année qu'on participe à cet événement. Ouais. On vient se mettre sur la place de la cathédrale à Die. Et puis avec les télescopes, et donc on fait observer la Lune à partir de la fin d'après-midi. C'est un moment où la Lune en fait est observable l'après-midi. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, on peut observer la Lune en journée. Voilà, observer la Lune et puis cette année un petit peu le Soleil aussi. Donc ça, cet événement, il aura lieu à Die, sur la place de la cathédrale, les 6, 7 et 8 juin. Donc nous, on y sera et on vous invite donc à passer à partir de la fin de l'après-midi, en famille, entre amis, enfin venir voilà, passer, jeter l'œil à l'oculaire et observer la Lune. C'est toujours un plaisir et si vous avez envie de discuter astronomie avec nous, on est là pour ça. Donc voilà, on voulait déjà vous annoncer en avant-première cet événement, 6, 7 et 8 juin. Et puis, la quatrième édition de Marignac Fête les Étoiles aura lieu donc cet été, le 19 juillet, samedi 19 juillet, toujours à la base de loisirs de Marignac. Alors, il y a une petite spécificité cette année voilà, qu'on n'avait pas fait avant, c'est qu'on va organiser la veille, donc le 18 juillet, une petite soirée en fait, pour des gens qui ont envie de venir apprendre à se servir d'un télescope. Donc, soit vous avez déjà un télescope, mais voilà, vous l'avez récupéré, vous ne savez pas vous en servir. Soit vous n'en avez pas, mais vous projetez d'en acheter un et vous avez envie de venir voir. Là, on va organiser une soirée, donc ce sera sur inscription avec un nombre de places limitées. Et voilà. Donc, si vous avez envie de participer ou d'avoir plus d'informations, vous nous envoyez un mail astro-rdwa@protonmail.com et on vous répondra. On n'a pas encore arrêté les nombres d'inscrits, mais on va être autour d'une quinzaine de personnes, peut-être 20 maximum. On veut pouvoir encadrer ça correctement. Nous, on a des petits télescopes à proposer. Voilà. Puis, pour vous montrer comment ça fonctionne un télescope et comment on peut apprivoiser ces bêtes-là. Voilà. En tout cas, ce sera le 18 juillet et c'est une nouveauté pour cette année dans le cadre de Marignac Fête les Étoiles. On va passer à la pause musicale. Donc cette semaine, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle UFO.
Bien nommé. OVNI en anglais.
Unidentified Flying Object. Et le morceau s'appelle Space Child.
Space of your life is only passing.
bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. On va continuer le déroulé de cette émission avec donc la rubrique qui tombe à pic.
Oui, je vais vous parler de météorites.
Première partie, puisqu'apparemment c'est assez long.
Ouais, j'ai commencé à préparer cette chronique et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à dire sur les météorites. Et donc je continuerai ça à la prochaine émission. Alors en voyant une étoile filante, on pourrait facilement penser que c'est véritablement un astre qui se déplace dans l'espace lointain. Mais non, il s'agit bien d'un phénomène terrestre. Fred t'en avait déjà parlé, mais c'était dans la toute première émission de l'étoile polaire.
Les étoiles filantes, tout ça.
C'est ça, ouais, ça parlait d'étoiles filantes. Ouais. Donc il y a une émission que vous pouvez bien sûr retrouver aux côtés des autres sur le site rdwa.fr. Et tu répondais à une question de Juliette, je pense, de la fille de
oui,
Pierrick,
sûrement,
qui se demandait qu'est-ce que c'est une étoile filante. Alors vous pouvez aller réécouter cette émission, mais comme ça remonte un peu, je peux peut-être me permettre un petit rappel, non ? Tu m'autorises ?
Tout à fait.
Bon, c'est parti. Dans l'espace, il y a tout plein de petites particules qui circulent, mais aussi des minuscules atomes, et en ce qui nous concerne, des petits bouts de choses, des trucs un peu plus gros. Parfois, un de ces petits bouts de choses vient à la rencontre de notre belle planète, et en général, se retrouve désintégré par le frottement avec l'air contenu dans notre atmosphère. Et oui, comme ils se déplacent à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, sans être dérangés, vu qu'ils évoluent dans le vide de l'espace, en entrant subitement en contact avec l'air, ils s'échauffent, et ils échauffent l'air autour d'eux. Et tout ça, ça brille. Vous savez bien que si vous vous frottez le bras frénétiquement, ça va induire de la chaleur. Ben c'est la même chose ici, mais avec bien plus d'énergie. Une sorte de hyper brûlure indienne spatiale. Donc je me répète, par ce phénomène, la majorité de ces visiteurs seront désintégrés. Et oui, c'est minuscule, une étoile filante. C'est gros comme un grain de sable. Dans le creux de la main, je pourrais en tenir un millier. Et j'ai même pas des mains particulièrement grandes. Bon, alors l'autre cas de figure qui nous intéresse aujourd'hui, c'est si l'objet est plus gros. De quelques centimètres jusqu'à 10, 20 mètres. Là, la désintégration par frottement ne sera pas totale. Et le restant peut donc arriver, non sans mal, jusqu'au plancher des vaches. Bien sûr, il aura laissé des plumes sur le trajet. Et c'est donc uniquement le cœur qui parviendra à toucher le sol. On parle de seulement 1% de la matière qui survit, voire 1 pour 1000 de l'objet qui rentre dans l'atmosphère et qui touche finalement le sol. Et c'est là alors qu'on parle de météorites.
Juste au passage, c'est là qu'on voit que si on a un caillou d'un kilomètre qui nous tombe dessus,
oui,
il reste quand même un bolide de genre 10 mètres au sol.
C'est ça, oui.
Et là, ça fait mal.
Et oui, oui.
Mais il faut attendre le kilomètre. Quoi.
Oui, oui, c'est ça. Il arrive fréquemment que l'objet se fragmente. Et c'est donc plusieurs fragments qui arriveront simultanément au sol. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Pline l'Ancien s'interrogeait déjà sur ce phénomène. Et dans son livre « Histoire naturelle », au chapitre « Quare lapidus pluat », lapidibus, pardon, en français « Pourquoi il pleut des pierres ?», il répondait « S'il pleut des pierres, c'est que les vents les ont d'abord enlevés. » Alors un peu de vocabulaire avant d'aller plus loin pour bien se comprendre et tenter de s'y retrouver dans ce champ lexical aux termes si ressemblants. On a les météorides, les météorites, les météores, les métépanètes, mais si je suis très net, ah non, c'est autre chose. Alors premièrement, les météorides. C'est le terme le plus général. Ça qualifie tous les objets qui arrivent dans la haute atmosphère. Météorides. Puis viennent les météorites. C'est donc, comme je l'ai dit juste avant, quand ces objets finissent par toucher le sol. Quand ils les trouvent, les météoritologues font la distinction entre, d'un côté, les chutes, c'est quand on les a vus tomber et qu'on les retrouve, et les trouvailles, on ne les a pas vus tomber et on les trouve un peu par hasard. Et les météores ensuite. Les météores, c'est simplement quand on a une traînée lumineuse dans le ciel. Et parmi eux, on a donc les étoiles filantes, des petits météores qui illuminent le ciel seulement s'il fait nuit, j'imagine que tout le monde en a déjà vu, et les bolides, plus gros, suffisamment pour briller même de jour. Vous en avez déjà vu ?
Non.
Pas de jour.
Pas de jour.
Effectivement, l'idée, c'est que les météores, ça ne désigne pas un objet. Ça oui. désigne une traînée lumineuse.
Voilà, ouais. C'est ça. Et ben moi, j'en ai vu un bolide qui a illuminé le jour en août dernier. Le soleil venait de passer derrière l'horizon. Il faisait encore très clair. Le ciel était encore assez bleu. Et j'ai vu une boule verte se déplacer à l'ouest et qui a même laissé une petite traînée derrière elle. Voilà, ça arrive. Alors, entre chute et trouvaille, combien on en a trouvé de ces météorites ? Et bien dans tous les musées et toutes les collections privées du monde, on en a tout de même référencé dans les 70 000. Et ce nombre augmente d'environ 1500 chaque année, dont 1400 qui sont des chutes. Et une centaine qu'on trouve par hasard. 1500 par an, c'est pas rien. Ça fait quand même pas loin de 5 par jour. Et en fait, si on rajoute les micrométéorites, celles qui sont plus petites que le millimètre, et qu'on parle en tonnes, eh bien c'est 5200 tonnes qui arrivent au sol de notre planète chaque année. Et si on compte tout ce qui n'arrive pas jusqu'au sol, on ajoute ce qui est vaporisé dans l'atmosphère, eh bien on obtient une valeur annuelle moyenne de 15 000 tonnes de matière accrétée par notre planète. Et oui, la Terre gagne du poids de cette façon. Mais en fait, si peu. Parce que si on garde ce rythme sur 1 million d'années, un rapide calcul nous indique que cela fait 15 milliards de tonnes. Et 15 milliards de tonnes pour la Terre, c'est rien. C'est environ un 100 milliardième de sa masse totale. Pour moi, qui fais environ 65 kilos, c'est comme si je gagnais 0,000000065 grammes. Même pas kilos, 650 nanogrammes. C'est bien moins que le poids d'un cheveu. Et ça sur 1 million d'années. Et puis, bon, pour vous dire la vérité, la Terre perd du poids. Car si elle en gagne de cette façon, de notre côté, elle en perd de par la fuite dans l'espace de particules de la très haute atmosphère. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus sur la masse de notre planète, restez à l'écoute de l'étoile polaire, ça fera le sujet d'une prochaine chronique. Revenons à nos pierres volantes. D'où elles viennent, ces météorites? Eh bien pour la grande majorité, plus de 99% des cas, ce sont des fragments d'astéroïdes. Mais pour une toute petite part, elles viennent carrément de la Lune, ou même de Mars. Alors pour ça, il faut un premier impact sur l'une de ces planètes, suffisamment puissant pour faire décoller de la roche, qui ensuite peut éventuellement venir impacter la Terre. On pense aussi qu'il est possible qu'une partie encore plus infime puisse venir de comètes. Mais c'est vraiment, là on est dans la recherche actuelle, avis aux curieux, on manque de vocation. Pour maximiser les chances d'observer des chutes, et ainsi partir à la recherche de ces météorites, nous disposons du réseau de caméras FRIPON, l'acronyme de Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network, soit en français le réseau de récupération de boules de feu et d'observation interplanétaire. Ça a été initié en 2013, mais inauguré véritablement en 2016. FRIPON, c'est la composante française du réseau de surveillance du ciel européen. L'idée est simple, des caméras grand champ réparties sur l'ensemble du territoire, qui sont braquées en permanence vers le ciel, et qui attendent patiemment de repérer le passage d'un bolide. Si par chance un tel phénomène se présente, la multiplicité des points de vue permet par triangulation de déterminer la trajectoire, la hauteur et la vitesse de l'objet, et ainsi de pouvoir donner une estimation de son point de chute, et même de sa taille. Une estimation, parce qu'après la phase remarquable de freinage qui induit l'illumination, la fin de la course est appelée le dark flight, le vol obscur. L'objet n'est plus visible. Une fois qu'il s'est éteint, il a atteint sa vitesse de chute maximale, il ne freine plus, il est à une vitesse constante, et là, on ne le voit plus. C'est pour cela que s'organisent ensuite des chasses à la météorite, où des dizaines de chercheurs, de curieux ou de passionnés, bénévoles, s'organisent en sorte de battus et arpentent la campagne dans l'espoir de dénicher le précieux caillou cosmique. Évidemment, la nature de l'environnement dans lequel se pose la météorite influe sur les chances et sur la facilité de trouvailles. On comprend bien que si l'impact a lieu dans le désert, le caillou va dénoter et être bien plus facilement repérable dans le sable que s'il tombe dans un pierrier ou dans une forêt dense.
Je me suis toujours demandé s'il n'y a jamais d'impact, même des petits fragments comme ça, ça fait un cratère, un mini-cratère.
Il faut que ça soit désymétrique, oui. Pour faire un petit cratère décamétrique de 10,
ah oui,
10 cm, 20 cm. Ah à partir oui. De là, ça peut faire un petit cratère.
Là, ça arrive,
la plupart, c'est plus petit.
Ça arrive à une vitesse où ça ne fait pas d'impact, ou enfin, très faible.
Ouais, bonne question. La vitesse au moment de l'impact, je ne l'ai pas noté. Je ne sais pas.
Okay.
Et puis, sur Terre, les trois quarts de la planète, c'est de l'eau. Donc, si ça tombe dans l'océan, c'est foutu,
oui,
on ne trouvera pas.
Ouais.
Et le reste, en fait, sur les 70 000, c'est ça que j'ai dit, hein, 70 000 météorites qu'on a, je crois qu'il y en a 60 000 qui viennent de la banquise. Et le reste, presque tout le reste du désert est vraiment une petite partie de contrées
contemporaine.
Le truc aussi, c'est parce que ce soit la banquise ou le désert, c'est des endroits où c'est beaucoup plus... Enfin, surtout la banquise, en fait, c'est des endroits où c'est hyper facile de les repérer.
Oui, c'est ça. Ouais.
Parce qu'en fait, sur la banquise, il n'y a pas de cailloux, a priori. Ouais. Donc, si on trouve un caillou, c'est qu'il y a à peu près toutes les chances que ce soit une météorite.
Ouais. Dans
le désert, bon, des cailloux, il y en a. Par contre, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de tout ça. Donc, c'est aussi... plus facile de trouver. C'est sûr que dès qu'on part dans du bocage, de la forêt ou machin, là, pour aller repérer ensuite derrière, c'est super compliqué. Donc il y a quand même un biais qui est lié à ça, quoi.
Tout à fait.
Alors d'ailleurs, il y a quelques années, en 2019, je crois, il y a une météorite qui était tombée dans le Sahara marocain. Et j'avais vu au journal télévisé des centaines de personnes qui étaient parties à sa recherche dans l'espoir d'en tirer un peu de richesse. Parce que les météorites d'origine martienne, par exemple, ça peut atteindre les 1000 euros le gramme. D'ailleurs, je ne me souviens pas si elle a été retrouvée. Ça. Je vais peut-être y faire un tour dans le Sahara. Plus près de chez nous, l'ami Guy Brabant, collègue astronome du Royan, nous avait raconté, Pierrick, avoir participé à l'une de ces battues qui ont toujours lieu le plus tôt possible après la chute, justement pour éviter que la météorite ne soit couverte par des feuilles ou autre, de la végétation. Alors, après une première journée de recherche en vain et un retour à la maison Bredouille, ils se sont donné rendez-vous le lendemain. En l'occurrence, la taille de l'objet était estimée à 1 ou 2 cm de long. Je rappelle qu'en général, les météorites sont plutôt rondes et sombres à cause de l'échauffement qu'elles ont subi, de l'ablation.
Et lourdes, non ? Elles sont denses ?
C'est un peu plus dense, ouais. Je parlerai dans la prochaine chronique de la composition.
Ouais, c'est ça, ça dépend. Celles qui contiennent du fer ou pas. Ouais.
Ça dépend, quoi.
C'est ça. Ouais. Et ben, en tout cas, le lendemain, de retour dans la zone... Il nous a fait part, Guy, du grand désarroi qu'ils ont tous ressenti en se rendant compte qu'un troupeau de moutons était passé par là et avait évidemment laissé pléthore de petites crottes sombres et rondes. Une aiguille dans une botte de foin, vous dites ? Je pense que ça aurait été plus simple. Mais en fait, ça intéresse qui vraiment, les météorites ? Pourquoi mettre autant de moyens à leur détection et à leur recherche ? Ça concerne principalement 4 grandes branches des sciences. Les exobiologistes, les exogéologues, les cosmochimistes, et les astrophysiciens. Parce qu'habituellement, le seul messager dans l'espace, le seul moyen qu'on a d'étudier l'univers, c'est la lumière. Alors vous pensez bien qu'avoir accès à de la matière ayant voyagé en provenance de corps célestes, c'est une chance inouïe. C'est en étudiant leur composition, par exemple, qu'a été montée la théorie de la panspermie cosmique, l'idée que la vie est apparue grâce à des briques du vivant convoyées par les météorites. L'eau sur Terre aussi vient vraisemblablement de l'espace. Les chasseurs de météorites professionnels ont pour habitude de céder gratuitement une partie de leurs trouvailles aux scientifiques. Ils la sectionnent. Pour les petites, c'est 20% de la météorite qu'ils envoient au labo. Pour les plus grosses, c'est 20 grammes. C'est un forfait. Comme ça. Ah. On envoie 20 grammes au laboratoire. Mais il ne faut pas rêver, hein, ce n'est pas tant par amour de la science que pour voir leurs cailloux certifiés et authentifier leur origine cosmique. Et ainsi de pouvoir la vendre à bon prix sur les marchés de météorites. On en a un bien connu des amateurs en France qui a lieu chaque année à NCSAIM en Alsace. Et en fait, avant même l'avènement de la science, les météorites semblent toujours avoir eu une certaine valeur aux yeux de notre espèce. Car avant d'être un objet scientifique, c'était des objets sacrés. Leur arrivée spectaculaire les a évidemment prédestinés à devenir des marqueurs de pouvoir ou des artefacts dédiés à la spiritualité. C'est ainsi qu'on en retrouve à Delphes, constituant l'Omphalos, une sculpture qui représente le centre du monde. Ou peut-être, alors je dis peut-être, parce qu'on ne peut bien sûr pas en prendre une partie pour l'analyser, et c'est bien normal, la pierre noire de la Kaaba à la Mecque, à l'angle sud-est de ce monolithe, enfin c'est pas un monolithe, mais de la Kaaba, ce bâtiment noir. À l'angle sud-est, il y a une petite proéminence, une petite pierre noire qui dénote avec le reste. On pense que c'est une météorite. On a aussi découvert une dague en fer de météorite dans le tombeau de Toutankhamon. On pense que le peuple inuit est entré dans l'âge de fer suite à la chute d'une météorite de plusieurs tonnes à proximité de Cap York, il y a environ 10 000 ans. Les premières traces écrites occidentales sont dues à Anaxagore, 1500 avant Jésus-Christ. Il y parle de la chute d'une météorite en Crète, et sa nature de pierre enflammée lui donne l'idée qu'elle viendrait du soleil. En Chine, on commence aussi à cataloguer les chutes de pierre, mais on n'a pas trouvé à ce jour de mention d'hypothèse quant à leur origine. Chez les Arabes, c'est Avicenne, vers l'an 1000, qui comprend que l'on peut les classer en 2 catégories, les métalliques et les rocheuses. Chez nous, au Moyen-Âge, l'Église considère simplement que les météorites sont soit une illusion d'optique, soit d'origine terrestre. C'est-à-dire des pierres arrachées par le vent, ou encore éjectées par des éruptions volcaniques, ou créées lors d'orages, d'où les termes de pierre de foudre ou pierre de tonnerre. En tout cas, le culte des météorites est déclaré païen et réprimé.
C'est là qu'on voit la grosse influence d'ouverture de l'Église catholique sur l'histoire du développement des sciences européennes.
Oui, et puis ils étaient basés sur les dires d'Aristote, qui avait pu dire des bonnes choses sur certains points, mais c'est monumentalement trompé sur d'autres, et notamment pour lui, tout ce qui se passait après la Lune était immuable. Il ne pouvait pas y avoir de rochers qui viennent d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc c'était calé là-dessus. Pour les savants, jusqu'au XVIIIe siècle, l'idée de roches venant de l'espace, justement, ça reste une absurdité. Il y aura bien des études chimiques des météorites de Coutances, de Lucé, puis de R sur la Lys, entre 1750 et 1770. Mais les chercheurs concluront à une origine terrestre. 100 ans plus tard, en 1676, c'est un mathématicien anglais, John Wallis, qui observe une pluie d'étoiles filantes et suggère que ce pourraient être des fragments de comètes qui entreraient dans l'atmosphère. Et c'est un physicien allemand, finalement, Ernst Kladni, qui autorise enfin à penser que ces pierres viennent bien de l'espace. Il s'appuie sur des analyses réalisées en chimie par Edward Howard et en minéralogie par Jacques de Bournon. Et il sera l'auteur d'un ouvrage dont je vous épargne la lecture du titre dans sa langue germanique d'origine. Mais en français, ça donne « De l'origine de la masse de fer trouvée par Pallas et d'autres similaires et sur quelques phénomènes naturels en relation avec elle. » C'est finalement au début du 19e, quand on admettra que certaines formations, certains paysages terrestres sont en fait d'anciens cratères d'impact, comme le Meteor Crater en Arizona, que toute la communauté scientifique se range derrière l'hypothèse de Kladni. Les débats sur l'origine exacte des météorites dureront quand même jusqu'en 1950. Viennent-elles du milieu interstellaire ou interplanétaire? Le consensus se cristallise sur l'idée que la majorité vient des astéroïdes. Et ce n'est que dans les années 80 que l'on confirmera l'existence de météorites martiennes et lunaires. Bon, je pense que cette chronique est déjà assez longue, peut-être pas aussi dense qu'une météorite, mais je vais garder le reste de l'histoire, et notamment leur composition, les différents types qui en découlent et tout ça, pour la prochaine fois.
Merci Axel. Ouais, les météorites, c'est sûr que c'est un sujet qui est vaste et qui est aussi passionnant, quoi, qui fait aussi rêver, ça ouais. C'est clair. Moi, j'ai souvenir de, de quand on tient une météorite dans la main, il se passe quand même quelque chose. Enfin, y a... ouais. Alors bon, pour ceux qui sont venus à On the Moon Again l'année dernière, on pouvait vous faire toucher en fait des échantillons de poussière lunaire venait d'une météorite qui venait de la Lune.
Ouais. Ouais, donc récoltée par le chasseur de météorites français Pierre, je crois, j'ai un doute sur son prénom, Monsieur Labène.
Donc ça, ça fait quelque chose. Moi, je me souviens d'une fois où c'était en Pologne, j'avais vu un lieu qui s'appelle près d'un village qui s'appelle Morasco, je crois. Morasco. Et en fait, c'est un ancien cratère, une ancienne zone de cratère de météorites qui ne devait pas être non plus énorme, mais sur un espace qui faisait peut-être un petit hectare. Quoi. Il y avait un bosque, il y avait des bois. C'était très humide, zone limite un peu marécage. Et en fait, il y avait plusieurs trous, 5 ou 6 trous différents à des endroits, mais qui, avec le temps, avaient été re-remplis par de la végétation, par de l'eau, par des trucs. Et chacun avait un peu sa... avait donné quelque chose de différent en réalité. Et on pouvait se balader comme ça sur ce site. Enfin, c'était assez chouette, en fait, de voir ça. De dire, voilà, ces trous-là, ça vient de... Alors, ça venait, comme tu l'as dit, d'un objet qui s'est fracturé. Ouais. Fragmenté en plusieurs morceaux qui ont impacté. Ça devait être quand même assez gros, parce qu'il y a quand même une vraie conséquence sur l'endroit. Mais c'est aussi chouette de voir comment, avec le temps... la nature, elle reprend de toute façon ses droits, elle retransforme les zones de cratères, mais ils sont quand même toujours bien visibles. Enfin, je sais que ça m'avait touché de voir cet endroit-là.
Alors, l'image qui illustrera ce podcast sur le site de Radio Diwa est une photo que j'ai prise à la Cité du Volcan, au Tampon, à La Réunion, d'une météorite qui a été trouvée par là-bas, à côté du Piton de la Fournaise. Et qui m'a donné l'idée de cette chronique.
Ok.
Ben on regardera ça sur le podcast. Eh bien, merci beaucoup. On va clôturer là cette émission. On espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. On vous invite à observer le ballet des constellations nocturnes. Et on vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine.
Et un bon dimanche.
Au revoir.